vraiment actuellement le point de mire de ces organisations. Merci.
Docteur, merci pour ces éclairages sur le paludisme en RDC. Nous allons tout de suite ouvrir notre séance de questions-réponses. Je vais vous demander d'éteindre vos portables pour ceux qui l'ont encore allumé. Ah, ça tombe à pic alors. Et puis, ou de le mettre sur silencieux en tout cas. Merci. Nous allons prendre une question, madame, au milieu, et puis ensuite un peu plus au fond. Présentez-vous, donnez-nous le nom de votre organe. Une question par personne, s'il vous plaît. C'est allumé le micro? Oui, allez-y, c'est bon.
La louange. Je voulais poser ma question aux humanitaires, particulièrement à Sylvestre Toumba Moudimgaï. Je suis étonnée de ne pas vous entendre parler de la situation qui prévaut actuellement à Kinshasa. Des Congolais refoulés de Brazzaville commencent déjà à poser des problèmes humanitaires dans les lieux où ils sont entassés. C'est au stade Tata Raphaël. Au stade Cardinal Malula, excusez-moi, on parle déjà de la précarité, de besoins humanitaires et des lieux d'aisance alimentaire, oui. Et puis, ma question est celle de savoir si vous avez déjà établi un plan d'intervention en ces lieux. Merci.
Sylvestre.
Merci pour la question. Par rapport à cette question de personnes expulsées, parce qu'il faut bien distinguer ce qui est humanitaire dans la situation et ce qui ne l'est pas. Par rapport à cette question, la première préoccupation au niveau des humanitaires que nous avons eue, c'était notamment avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de s'assurer que parmi les personnes expulsées, il n'y avait pas des personnes, des réfugiés congolais qui se trouvaient de l'autre côté du fleuve Congo, ou encore des personnes qui étaient dans un processus de demande d'asile. Au point où on en est, nous n'avons pas eu des informations comme quoi ces personnes aient été particulièrement touchées par cette vague d'expulsion. Et pour le reste, il y a, je crois, des concertations. Mais peut-être que si vous vous approchez des collègues du HCR ou de l'OIM, vous pouvez avoir plus de précisions par rapport à cette question-là. Mais la première préoccupation pour nous, c'était être sûr qu'il n'y a pas des réfugiés et des personnes en demande d'asile qui figuraient parmi les personnes expulsées.
Nous restons là un peu plus au fond. Oui, la main levée. Ensuite, on va revenir. Oui,
Samir Mimbou du journal Explorateur. Ma question, je l'adresse à M. Bambara.
Oui.
La situation qui prouve maintenant en RD Congo, ça montre que la population congolaise est choisie un peu partout par les pays limitrophes, les refoulements notamment. Maintenant, quelle sera la réaction de la MONUSCO si les Congolais se prenaient en charge en refoulant les étrangers en situation irrégulière ici au Congo? Quelle sera la position de la communauté internationale?
Il est souhaitable que tout cela se passe dans le cadre du bon voisinage, dans les rapports de bon voisinage, au niveau des États, des institutions sous-régionales d'ailleurs qui existent et qui, je crois, de plus en plus doivent s'intéresser à cette question. Pour notre part, et je vous rappelle ce que Martin Kobler, la semaine dernière, avait dit, il faut que tout cela se passe au regard des lois internationales qui régissent ce genre de situation. Et c'est vrai que nous serons regardants quant à, j'allais dire, au respect des normes internationales dans ce genre de situation humanitaire. Et le représentant spécial l'a dit, les différents services spécialisés de la MONUSCO s'intéressent au dossier, effectivement, et ils vont, si de besoin, réagir en temps opportun. Merci bien. Nous allons passer à gauche, Léas.
De RFI. Une question à vous, Charles Bambara. Qu'est-ce que la MONUSCO pense de l'ouverture d'une enquête judiciaire sur la disparition du chef rebelle Morgan? Est-ce que par ailleurs, les zones d'ombre qui subsistent autour de sa disparition et le fait qu'il ait été tué, vous craignez pas que ça mette en péril le processus de désarmement et de démobilisation?
Vous savez que dès après les événements survenus dans cette région, la MONUSCO a dépêché sur place une série d'enquêtes. Tout d'abord, un fact-finding, donc une enquête pour vraiment établir les faits, et puis ensuite une enquête vraiment sur la situation, j'allais dire, au niveau de la protection des droits des populations de cette zone. Et ces deux missions ont été dépêchées sur place, ils doivent rentrer très bientôt, je crois. Et une fois que nous aurons les conclusions de ces deux missions, d'ailleurs, nous allons les porter à votre connaissance, comme nous l'avons toujours fait dans ce genre de situation. Mais ces deux missions, comme nous avons les premières indications, nous semblent dire qu'elles ont pu atteindre leur destination finale, que sont les différentes villes sur lesquels a cheminé donc les éléments qui sont allés chercher Morgan depuis donc Baden-Gaïdo jusqu'à Kamanda. Donc ils ont pu faire leur mission. Nous attendons le rapport. Une fois que le rapport sera établi, nous allons le porter à votre connaissance, s'il vous plaît. Oui, les autorités congolaises, oui, peuvent ouvrir et doivent ouvrir sans doute une enquête indépendante, impartiale, effectivement, sur ce dossier. C'est leur droit. Nous la constatons et nous pensons que cela va dans la bonne direction si effectivement c'est pour établir les faits tels qu'elles se sont passées sur le terrain. Merci. Une autre question derrière.
Honoré Benga, à APA, ma question est destinée au docteur. Vous avez dit tout à l'heure dans votre exposé que le paludisme est essentiellement lié, selon le tableau que vous avez donné, à la pauvreté. Donc c'est un problème économique. Est-ce que l'OMS a déjà intéressé le gouvernement congolais à ce que le ministre de la Santé, avec les gérants des pharmaciens, puisse revoir à la baisse les prix des médicaments paludisme, parce que la plupart des familles n'ont pas le pouvoir d'achat pour acheter les médicaments dans les meilleurs délais. Peut-être c'est ce qui verrait cela.
Merci beaucoup pour la question. Effectivement, vous avez bien fait de reprendre cette je ne sais pas comment on l'appelle, cette phrase où on dit que on tombe malade parce qu'on est pauvre, et quand on est pauvre, on tombe encore beaucoup plus malade. Et le paludisme, c'est vraiment cette situation un peu difficile. Et concernant la situation sociale, comme vous venez de l'évoquer, c'est d'ailleurs une des clauses de la déclaration d'Abuja, et la République démocratique du Congo l'applique, puisque si vous voyez les médicaments qui sont distribués au niveau des formations sanitaires, le coût auquel ces médicaments sont cédés, c'est très en deçà du coût normal que ces médicaments devraient être vendus. Mais il y a une bonne partie qui est prise en charge par l'État ou par le gouvernement, qui fait que les médicaments sont vendus à un coût moindre. Maintenant, concernant le secteur privé, quand le secteur privé s'approvisionne de l'extérieur, le rôle de l'OMS et des autres organisations, c'est de faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour que les taxes diminuent. Parce que le privé, il ne peut pas acheter cher, et que vous lui demandez de revendre moins cher que ce qu'il a dépensé pour acquérir son produit. Ce que l'État peut faire, et c'est le plaidoyer que l'OMS fait au niveau des gouvernements, y compris la RDC, c'est de revoir les taxes au niveau de ces produits. Et lorsque ces taxes sont baissées, ces produits vont beaucoup baisser. Et ce travail, il est en cours. Et actuellement, on travaille avec une organisation et un partenaire qui s'intéresse beaucoup au secteur privé. Ce travail en cours qui est en train de se dérouler va nous amener certainement vers une situation beaucoup plus claire et mieux négociée avec le secteur privé.
Direction Goma, deux questions à Goma avant de revenir ici à Kinshasa. Goma.
Ok, merci Charles. Je voulais aussi vous annoncer que le chef de bureau de la MONUSCO, Monsieur Ray Virgilio Torres, vient de rentrer de Niabiondo, qui, comme vous le savez déjà, il y a eu une attaque ce matin très tôt des combattants APCLS contre l'état-major des FRDC. Donc, certainement qu'il aura quelque chose à dire et on passera aux questions-réponses.
Peut-être rétorise tout de suite. Ray peut-être peut nous faire un point, deux minutes, et puis ensuite on prend une question.
Voilà.
Vous êtes d'accord ?
Oui, il est d'accord.
Vous êtes d'accord ? D'accord. Une minute, parce que nos collègues journalistes attendent depuis plusieurs minutes pour poser leurs questions. La situation à Niobiondo a été très bien décrite par le colonel Bass tantôt. L'attaque a débuté à 4h30. Ce qui nous inquiète particulièrement, c'est le fait que l'APCLS est tiré sur des villageois dans des endroits où il était évident qu'il n'y avait pas de cible militaire. Nous allons mener des enquêtes pour déterminer s'il s'agit d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité. Nous déplorons les pertes civiles, nous déplorons les pertes militaires et nous déplorons deux blessés casque bleu de la MONUSCO. En ce moment, j'ai pas eu le temps de compter physiquement les gens qui sont à l'intérieur de la base de la MONUSCO, mais j'ai l'impression que c'est environ 500 familles, 1500 personnes peut-être, mais qui sont très inquiets. Donc la MONUSCO est très présente. Comme ça a été décrit par le colonel Bass, nous avons déjà sur place une unité de la FIB, des hélicoptères d'attaque en soutien et les Indiens en position très robuste et très, très active. Voilà, s'il y a des questions par...
Voilà, la première question, c'est à Hortense.
Merci beaucoup. Prochainement, nous demanderons à M. Bambara d'être assez équitable. Ma question s'adresse directement au porte-parole militaire de la MONUSCO. Monsieur le colonel Bass, vous avez eu une occasion à Nord, officiellement, la MONUSCO, aussi vous étiez là quand Tcheka a été rencontré. Ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que Tcheka n'a pas été arrêté directement? Aussi, il y a des fiches pour demande d'amnistie pour les M23. Mais aujourd'hui, selon des sources sûres, les experts qui doivent se rendre au Rwanda sont bloqués par des services d'émigration rwandaise. Ils ne peuvent pas accéder pour aller dans des camps déposer ces fiches. Est-ce que la MONUSCO est au courant? Est-ce que vous pouvez... que comptez-vous faire par rapport à cette situation? Merci.
Colonel.
Une autre question.
Voulez-vous que je réponde à la première question?
Oui, quelques éléments de réponse, mais je voulais vous donner la parole et ensuite le colonel va compléter. Allez-y.
D'accord, très bien. Juste très, très brièvement parce que j'étais samedi également à Bunyampuli pour cette occasion. Je pense que ce qui est très important que vous sachiez, c'était que la mission avait pour but de parler avec les villageois qui sont sous pression énorme à cause de la présence de NDC Tcheka, pas seulement à Bunyampuli, mais dans les villages environnants. Et ils se trouvent pris en étau par ce groupe armé. Sans avoir pu prévoir la chose, Tcheka s'est présenté. Le gouverneur était présent, le chef de la police était présent, mais il y avait une grande quantité de civils qui étaient présents. Et il a été estimé à ce moment-là par le gouverneur qu'il voulait délivrer un message de dernière chance à NDC Tcheka et à son dirigeant. La présence des civils est quelque chose qu'il faut prendre en considération. C'est vrai qu'il faut arrêter Tcheka le plus rapidement possible, mais je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'arrestation aurait présenté des risques très sérieux pour les populations civiles qui étaient aux alentours. Tcheka demeure un criminel de guerre. Tcheka demeure quelqu'un de très dangereux, dont l'arrestation ou la neutralisation demeure une priorité, pas seulement pour la MONUSCO, mais pour toutes les autorités. Cette occasion n'était pas, je pense, en ordre. Il y en aura d'autres.
Merci.
Peut-être juste pour rajouter à la suite de M. Torres que d'abord il faut considérer que le mandat d'arrêt qui a été lancé contre Tcheka est un mandat d'arrêt national émis par les autorités congolaises. Alors la question qui voudra se poser, c'est que quelle est la plus haute autorité dans la province du Nord Kivu, outre que le gouverneur? Monsieur Torres a bien indiqué que la démarche, ou en tout cas l'objet de la mission à Bunyampuli était bien précise. C'était suite à la requête formulée par les habitants de cette localité. Et il est tout à fait normal, dans le cadre des activités menées par le chef de bureau et par le gouverneur de la province du Nord-Kivu, qui se rend dans cette localité-là pour pouvoir s'entretenir avec les populations, les rassurer. Mais il a déjà dit, ça aurait été un bain de sang que de vouloir arrêter Tcheka dans ces conditions-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut considérer que Tcheka, ceci n'enlève en rien le mandat d'arrêt qui est toujours en vigueur contre Tcheka. Le troisième aspect qu'il faut prendre en compte, quoiqu'un mandat d'arrêt ait été mis, quoique un ultimatum ait été lancé à tous les groupes armés de faire reddition dans des délais qui sont dépassés, le gouvernement congolais, tout aussi que autant que la MONUSCO, continue à lancer des appels aux groupes armés pour qu'ils fassent reddition. Donc la main tendue du gouvernement par le biais du gouverneur Paluku, je pense, était aussi une excellente chose. Et, mais ceci, comme vous le savez, ne nous empêchera pas, au moment opportun, d'arrêter Tcheka, si toutefois les autorités congolaises aussi demandaient le soutien de la MONUSCO pour réaliser, si vous voulez, cet objectif-là, qui est de toutes les façons voulu et bien voulu, compte tenu des crimes innommables que Tcheka a perpétrés dans cette région. Donc, En novembre 2013, notre détermination était très claire. Nous avons dégagé Tcheka de Pinga, permettant à Pinga d'avoir un environnement stable pour les populations civiles. Donc je pense que la situation n'était pas très favorable et nous étions avec les plus hautes autorités aussi de la province du Nord-Kivu. Donc je pense que Tcheka sera arrêté et répondra de tous les crimes dont il est accusé.
Vous avez entendu tout à l'heure à Goma, on me dit que je ne suis pas juste. Donc on reste toujours à Goma pour une autre question avant de revenir à Kinshasa. Goma.
Il y avait une deuxième question par rapport à...
Vous pouvez nommer d'autres
journalistes. Monsieur Jérémy,
pour les comptes de la radio-télévision communautaire Taïna Goma. Certes, les positions jadis occupées par les ADF sont entre les mains gouvernementales, mais ma question est de savoir qu'en est-il pour les otages. Deuxième sous-question, est-ce que ensuite on peut dire que la ville de Beni est hors danger, d'autant plus que on continue à ramasser des tracts des ADF dans cette ville, en projetant de nouvelles attaques sur cette ville du Nord. Merci.
Colonel ADF, les otages au maître des ADF.
Justement, c'est la situation réelle des otages jusqu'à présent reste inconnue, même au niveau des forces gouvernementales qui ont initié cette opération soutenue par la MONUSCO, mais nous continuons à suivre cette situation de très près en vue de vous en dire un peu plus lorsque nous aurons des éléments de réponse. Mais à ce niveau, honnêtement, nous n'avons pas grand-chose à communiquer parce que rien de palpable entre les mains.
Est-ce que la situation à Beni continue d'être sérieuse? Apparemment, les ADF continuent à jeter des tracts en ville, etc. Quelle est la situation sécuritaire à Beni?
Oui, je pense que les capacités de nuisance de l'ADF sont significativement réduites, car ce groupe armé a subi un taux d'attrition considérable, parce que je viens de vous dire dans mon propos liminaire que les FRDC ont conquis ce qui est supposé être le dernier bastion, donc à savoir Médine. Donc je ne pense pas que leur capacité de nuisance soit aussi importante. Toutefois, un modus operandi nouveau a été observé, c'est justement les attaques terroristes avec des grenades artisanales. Donc c'est ce qu'on peut dire, mais la situation est calme.
Je sais qu'il est l'heure pour Radio Okapi de nous quitter. On va cependant continuer ici pour prendre un peu plus de questions, car il y avait des mains. Donc auditeurs, auditrices de Radio Okapi, au revoir. Et nous continuons donc la conférence de presse ici avec une question quand même à ma droite d'abord, et ensuite on passera à la gauche. Allez-y, monsieur.
Merci pour la parole. Pasteur Chibongo pour le scribe. Monsieur le porte-parole, à qui revient le droit d'intenter un chef rebelle à la Cour pénale internationale, puisque Tcheka, ce qu'il a fait, il mérite la Cour pénale internationale, mais jusque-là, il n'a que le mandat d'arrêt national. Alors, aussi, on impute à la communauté internationale de vouloir transplanter Mbororo au nord-est du pays, d'où ça devient comme un problème des colonies de peuplement. Qu'en dites-vous là-dessus?
Non, au niveau des personnes qui doivent être acheminées à la Cour pénale internationale, il y a deux schémas. Je crois que le premier schéma, la Cour elle-même peut se saisir et intervenir et essayer d'interpeller un certain nombre de pays pour leur dire « nous voulons monsieur ou madame une telle devant nos juridictions ». Mais dans la plupart des cas, vous savez que ce sont les pays eux-mêmes qui assigne un certain nombre de ressortissants qui ont commis des crimes graves contre l'humanité, des crimes de guerre, devant les instances de la CPI. Donc, les deux schémas existent. Madame Bensouda, qui était là, a rappelé souvent que la majorité des cas qu'elle traite en ce moment sont des pays africains qui eux-mêmes ont assigné leurs ressortissants devant les cours, mais il y a l'autre volet qui existe aussi. La CPI peut effectivement intervenir, comme elle le fait, je crois, à l'heure actuelle pour un certain nombre de pays. Hein. J'ai vu déjà dans la semaine que la CPI, par exemple, s'intéressait à des pays non africains, d'ailleurs. Donc, suivez un peu le dossier, vous allez voir. Nous allons prendre une autre... Les Bororo. Colonel, des informations sur les Bororo la...
Non, sauf peut-être pour lui dire qu'il faut tenir compte de la spécificité des Bororo. Vous savez que les Bororo, ce sont des nomades qui vont d'un pays à un autre à la recherche de pâturage. Maintenant, un plan ourdi pour faire de la RDC le réceptacle de tous ces, de ces Bororo, je ne peux me prononcer là-dessus. Mais je pense que les Bororo constituent aujourd'hui une forme de menace sécuritaire qui est en train d'être bien prise en compte par les autorités congolaises, notamment celles de la province orientale.
Merci, colonel. Nous allons prendre une question ici avant de passer sur la droite, la gauche du moins.
Roger Marley Lukunga pour le journal Le Paris et la télévision RTEC. Dans la brève de la police MONUSCO qui a ouvert ce point de presse, il a été dit que King Kester est décédé en novembre dernier. J'apporte ici un correctif, c'est plutôt le 13 février. Okay. Donc c'était une erreur.
Okay.
Bon, ma question c'est la suivante. Dans le rapport sécuritaire, il a été fait mention de la présence des éléments résiduels Mai Mai Morgan dans la réserve des poulous. Quand j'ai entendu cela, j'ai frémi parce que la réserve des poulous regorge des espèces animal rare, les okapis. D'où je me pose la question, est-ce qu'il existe toujours des espèces d'okapis dans cette réserve?
Pas d'informations de mon côté. Est-ce que les agences ont des informations l'UNESCO? Vous avez quelques informations sur la réserve en question? Est-ce qu'il y existe des espèces protégées encore dans la forêt?
Depuis le massacre de l'année dernière...
On ne te voit pas. Tu peux venir devant les écrans. Un peu plus en avant, oui.
Oui, j'ai...
Oui, vas-y.
Oui, depuis le massacre de l'année dernière, l'UNESCO avait lancé une initiative pour demander aux différents bailleurs qui interviennent de pouvoir œuvrer pour la réhabilitation du parc. À l'heure actuelle, je sais qu'il y a une opération pour pouvoir remettre à nouveau le parc dans son fonctionnement. Donc il y a des okapis qui ne sont pas dans la réserve, mais qui sont au niveau de cette forêt. Et un travail qui est fait pour essayer d'en capturer quelques-uns et le mettre dans la réserve. Voilà.
Ok, merci bien. On va prendre une question là, une, deux, et puis on va peut-être... allez-y.
Merci, c'est Steve Wembi pour Chine Nouvelle. J'adresse ma question au colonel Bass. Vous avez dit que le moment pour arrêter Tcheka, le chef Tcheka, n'était pas bon. Mais quelqu'un qui est venu demander pardon, il s'est agenouillé devant vous, donc le chef de la MONUSCO, M. Torres, et le gouverneur voilà, du Nord Kivu, entouré bien sûr de Nations Unies. Mais selon vous, quel est le moment pour arrêter Tcheka? Parce qu'il était là. Vous avez manqué des arguments. Pourquoi encore lui accorder une chance pour se préparer? Pourquoi?
Merci. L'opération, les faits se sont déroulés dans le village de Bunyampuli. C'est vraiment loin des bases hein, de la MONUSCO. Et il n'y avait pas de présence des autorités de la MONUSCO sur place. Je parle des autorités de la MONUSCO. Et donc, c'est vrai, M. Torres l'a rappelé tout à l'heure dans son intervention, nous étions dans un village où, n'oubliez pas, des éléments armés de Tchéka étaient là. Fallait-il essayer de l'arrêter et provoquer, j'allais dire, une bagarre généralisée qui aurait provoqué un drame humanitaire beaucoup plus grave? C'était tout là l'objet de l'intervention de M. Rey Torres tout à l'heure. Donc, il y a un certain nombre de... La mission première de la MONUSCO, il faut le rappeler, c'est quand même la protection des civils. Dans ce cas-là, on allait mettre à mal, j'allais dire, ce mandat qu'on nous a confié de protéger les civils, qui sont les villageois et qui ont demandé d'ailleurs à la MONUSCO de venir sur les lieux parce que justement il y avait un problème de sécurité. Alors, vous voyez, d'autres occasions, comme l'a rappelé le colonel tout à l'heure, vont se présenter et ce mandat, qui est un mandat national délivré par les autorités de ce pays, je crois et je suis sûr, comme l'a dit le gouverneur Paluku sur les lieux, ils veulent l'appliquer, ils vont l'appliquer. Et le soutien de la MONUSCO ne fera pas défaut. Le colonel l'a rappelé tout à l'heure. Tôt ou tard, tous les chefs de guerre, qu'ils soient Tchéka, qu'ils soient d'autres, vont passer par là. Ils seront obligés de rendre les armes et de rejoindre les camps DDR ou de faire face à la réalité des faits. Et notre engagement sur ce point ne fait vraiment pas... On ne lésine pas dessus. Merci bien. Une autre question?
Merci, c'est Venant Voudissa pour la RTNC. Monsieur Charles, c'est une question qui a été déjà abordée par notre consoeur Léa Lisa. Ça concerne le décès de Morgan. Il y a eu des images vidéo qui ont été envoyées par-ci, par-là, tournées je ne sais par qui. J'aimerais mieux savoir si ces images sont-elles crédibles aux yeux de la MONUSCO.
Il faudrait demander à Radio France Internationale qui a publié ça sur son site internet. Hein. Personnellement, j'ai vu comme vous sans doute sur le site de Radio France Internationale ces images. La MONUSCO n'en a pas possession. La MONUSCO ne sait pas dans quelles conditions ces images ont été tournées. Mais si à tout hasard on venait à avoir l'origine, mais je crois une fois de plus que Léa Lisa elle-même est peut-être mieux placée que nous pour vous dire l'origine de ces éléments. Merci. On va peut-être prendre une dernière question et puis en finir. Oui, je vois une main insistante sur la droite.
Merci, c'est Christophe Nkatumba pour le compte de l'explorateur. Je m'adresse au docteur. Docteur, le paludisme reste un grand fléau qui détruit l'humanité, beaucoup précisément l'Afrique. Quel type de garde-fou pour assurer une meilleure santé aux victimes? Je vous remercie.
En deux mots, docteur, qu'est-ce qu'on peut dire? Votre question, vous dites?
Quel type de garde-fou concernant les victimes suite à au paludisme? Garde-fou.
Est-ce qu'il y a des mesures préventives, peut-être sur...
C'est-à-dire, quel type de garde-fou sur le concernant l'alimentation, le produit, etc., etc.
Il n'y a pas de garde-fou.
Il n'y a pas de garde-fou comme tel. Mais il y a deux aspects importants qu'il faut prendre en compte. Je dis, on a dit, la RDC, 9 millions de moustiquaires sont distribués récemment, qui s'adjoint aux 5,5 millions qui ont été déjà distribués. La seule chose qu'on demande aux gens, c'est de dormir dans ces moustiquaires. On distribue les moustiquaires, les gens ne dorment pas dans ces moustiquaires. Ils les mettent à côté. Ça, c'est le premier garde-fou qu'il faut prendre en compte. Le deuxième garde-fou qui est là, c'est que le paludisme est très simple, connu de la population. Vous avez la fièvre, vous avez des maux de tête, vous avez votre enfant qui vomit, ne dites pas c'est rien ou n'allez pas là où vous êtes sûr, vous n'êtes pas sûr d'avoir le bon traitement. Les services sont là. Je dis que les produits sont là, c'est des produits efficaces. Dès que vous avez les premiers signes, amenez l'enfant à l'hôpital ou amenez-le chez quelqu'un qui peut traiter cet enfant et vous sauvez votre enfant. Vous traînez, vous passez à la forme grave et vous perdez votre enfant ou vous perdez votre patient.
On ne peut pas ne pas finir sans retourner à Goma. Goma, une, deux questions et puis on finit.
Ok, merci.
Et nous allons demander aux collègues journalistes de Kinshasa de rester sur place, s'il vous plaît. Restez sur place, parce qu'à Goma, ils ne se sont pas levés encore, ils vous ont écouté gentiment. Goma, vous avez la parole.
Oui, Charles, je disais tout à l'heure, le chef de bureau voulait apporter des éclaircissements par rapport à ce que... par rapport à Tcheka et sa présence à Bunyapuri, et après on donnera la parole.
Faisons la chose dans l'autre sens. Profitons que nous avons Kinshasa avec nous pour que vous puissiez poser des questions à nos collègues de Kinshasa. Et on peut rester ensemble après.
Notre ami de la RTNC, Tauvert.
Merci. Ma question s'adresse au colonel Basse. Colonel, ce matin, il était attendu qu'il y ait une contre-vérification de déclaration qui jusque-là semble ne pas avoir été contre-vérifiée par la MONUSCO de la présence avérée d'une troupe rwandaise sur le sol congolais dans les territoires de Nyiragongo. La MONUSCO n'a pas pu effectuer cette contre-vérification, mais l'information continue à courir que les Rwandais sont sur ce sol. Quelle est la prochaine étape pour que la MONUSCO contre-vérifie?
Pour cette préoccupation qui est récurrente à chaque conférence de presse, vous la posez. Je veux tout simplement dire, est-ce une information ou est-ce une rumeur? Il faut d'abord clarifier ce premier point. Ensuite, il y a, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a un organisme qui existe, qui s'appelle le mécanisme conjoint élargi de vérification, qui a été mis en place dans le cadre de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, au même titre que l'équipe d'évaluation militaire qui a précédé la brigade d'intervention, au même titre que le centre de fusion des renseignements. Donc, la MONUSCO aujourd'hui est partie intégrante de ce mécanisme, et à plusieurs reprises, vos préoccupations ont été posées sur la table, et jusqu'à présent, rien n'a été de manière palpable confirmé concernant justement cette incursion de troupes rwandaises dans le territoire de Nyiragongo. Donc, je pense que vous pourrez aussi aider ce mécanisme ou cette structure à y voir plus clair, parce qu'aujourd'hui, il est très facile d'observer des troupes dans un territoire et puis de pouvoir immortaliser justement cette présence par un appareil photo ou par un téléphone portable. Mais je ne peux pas confirmer ou infirmer la présence de troupes rwandaises dans le territoire congolais, et je pense que le Congo est un État souverain, a des forces de défense et de sécurité et des services de renseignement qui sont aussi en mesure de pouvoir se rendre à cet endroit et vérifier cette information. Toutes les fois où la MONUSCO a été là-bas avec la brigade du Nord Kivu, nous n'avons rien trouvé. Peut-être que c'est des incursions sporadiques ou pas, mais en tout cas, aidez-nous à aider les populations civiles.
Dernière question, Goma.
Malevika.
Oui, madame, moi c'est Malevika. Nous voulons avoir... moi c'est Malevika, je travaille pour la Voix d'Amérique et puis aussi ITV. J'ai une question à colonel Basse. Il y a des informations selon lesquelles l'armée sud-soudanaise est entrée au Congo à territoire de Dungu, vers Faradje. Je ne sais pas si vous avez ces informations. Aussi, je demande à Torex de nous donner la lumière. Oui, à Torres, de nous donner la lumière sur la vraie version de ce que Tcheka a dit. Parce que, selon les informations que nous avons, Tcheka avait tourné sur vous, avec le gouverneur et sur la MONUSCO. Mais les informations que Tcheka s'était agenouillé. La vérité, c'est où?
Merci. Nous allons demander tout à l'heure au colonel Bassi ici de répondre d'abord.
Oui, très rapidement, concernant votre préoccupation relative à l'incursion de troupes soudanaises, non, je ne suis pas au courant, et au niveau de la MONUSCO non plus.
Merci. Ray Torres, s'il vous plaît.
Je n'étais pas à la réunion avec Tcheka. J'étais à Bunyampuli, mais je n'étais pas à la réunion avec Tcheka parce que j'ai refusé de parler avec Tcheka. J'avais déjà parlé avec Tcheka. C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui s'est moqué de moi. Quand je l'ai rencontré la première fois, je n'ai plus rien à lui dire. Ce que je peux dire, c'est que lorsque ce que j'ai entendu, et certains de vos confrères étaient là, présents lorsqu'il a rencontré le gouverneur, ce qui m'a été rapporté, c'est que c'est lorsque Tcheka a élevé sa voix sur le gouverneur l'a fait taire et lui a signifié que c'est lui l'autorité. Tcheka n'a pas demandé pardon. Tcheka s'est mis à genoux parce que c'est un bouffon. Il faisait du théâtre, mais c'était pas pour demander pardon. Donc, je pense que c'est une situation assez malheureuse. mais il n'a pas demandé pardon.
D'accord, merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous pendant cette conférence de presse et à la semaine prochaine.